Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Carlos Tavares, PDG du groupe PSA Peugeot Citroën. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Carlos Tavares.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand jury. À mes côtés pour vous interroger, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Et Adrien Gindre pour TF1 LCI. Bonjour, bonjour Adrien.
Bonjour.
Dans la question en plus, c'est Yann Ogras de la CGT chez l'équipementier GMES, l'un de vos sous-traitants. Qui vous interpellera, Carlos Tavares? Et puis en fin d'émission, vous y êtes habitué, question nette avec Marie-Pierre Haddad qui nous rejoindra pour relayer vos questions, vos interpellations au PDG du groupe PSA Citroën. Alors, Carlos Tavares, vous êtes plutôt rare dans les médias et vous êtes pourtant l'un des grands patrons français, un patron à succès, puisque depuis votre arrivée à la tête de Peugeot en 2014, vous avez remis le groupe à flot, un groupe qui était alors en grande difficulté financière. Vous venez d'ailleurs d'annoncer des résultats records pour la deuxième année consécutive, au point que vous avez décidé après Opel de fusionner avec le groupe Fiat. Mais Carlos Tavares, n'êtes-vous pas trop gourmand alors que le marché de l'automobile mondiale est morose, que certains de vos concurrents comme Renault sont dans le rouge et que la voiture, eh bien, n'a plus autant la cote norme anti-pollution oblige. D'ailleurs, concernant les décisions prises par les pouvoirs publics pour limiter les émissions de CO2, vous êtes plutôt sévère, vous mettez en garde purement et simplement contre une entrave à la liberté de mouvement. N'êtes-vous pas à contre-courant de l'histoire? Nous en parlerons bien sûr dans cette émission. Vous investissez cependant dans le véhicule électrique, mais vous avertissez sur ses effets néfastes en termes d'emploi. Produire électrique se fait avec moins de main-d'œuvre. Pas forcément une bonne nouvelle pour la firme Olion que vous dirigez. Depuis 2013, vous avez en effet déjà supprimé 25 000 emplois. Nous en parlerons bien évidemment dans cette émission. Mais nous voulons aussi vous entendre sur la politique économique du gouvernement. Est-ce une politique pro-entreprise que celle du président de la République? Nous en parlerons dans cette première partie. Mais nous commençons bien sûr par l'actualité du moment, celle qui inquiète tous les Français qui nous écoutent. Le coronavirus, la première question vous est posée par Adrien Gindre.
100 cas ont été identifiés en France depuis janvier, 87 000 dans le monde. Alors on a une question d'abord très simple, est-ce que vous, dans votre entreprise, des cas ont été identifiés ou bien des salariés placés en quarantaine, puisque c'était la pratique ces derniers temps pour 14 jours? Et si jamais cela devait advenir, qu'est-ce qui se passerait dans vos usines, dans votre entreprise? Qu'avez-vous prévu pour faire face à ce virus qui donc peu à peu s'étend, puisque la France est passée au stade 2?
Carlos Tavares.
Eh bien, d'abord, nous appliquons avec beaucoup de rigueur et pragmatisme toutes les consignes qui nous sont données. Évidemment, c'est notre meilleure contribution pour remporter ce combat. Nous avons rapatrié nos collaborateurs qui étaient en Chine, comme vous le savez peut-être. Ils sont tous en bonne santé, et c'est ça le point le plus important. Nous n'avons pas de cas dans notre entreprise, et nous avons bien l'intention d'appliquer avec beaucoup de discipline et beaucoup de rigueur toutes les consignes qui nous sont données. Je salue au passage le pragmatisme et la clarté de ces consignes qui nous permettent de passer à l'action immédiatement. Nous sommes dans cette voie-là et nous voulons apporter notre contribution à la résolution de ce grave problème.
Des consignes qui ont un impact sur votre production, sur la marche de l'entreprise ou qui sont pour le moment à effet neutre?
Pour l'instant, nous avons deux volets. Nous avons un volet qui est la production en Chine. La production en Chine est arrêtée puisque ce sont les autorités chinoises qui décident de la reprise de notre activité industrielle.
Juste sur ce point-là, vous avez des signes justement d'une éventuelle reprise dans les jours ou semaines qui viennent?
Les signes que nous avons, c'est une annonce faite par les autorités chinoises qui nous disent qu'à partir du 11 mars, nous allons pouvoir reprendre nos activités industrielles dans la province du Hubei.
Donc vous rouvrirez vos trois usines le 11 mars?
C'est ce que nous disent les autorités chinoises.
D'accord. Ça veut dire que vos collaborateurs qui aujourd'hui ont été rapatriés en France repartiraient à ce moment-là en Chine?
Ils seront invités à le faire à partir de la deuxième quinzaine du mois de mars et évidemment ils auront tout loisir de se positionner personnellement sur leur volonté ou pas de repartir en Chine. Mais les autorités chinoises nous disent à partir du 11 mars vous pourrez reprendre l'activité industrielle.
Donc et ça c'est un premier point. Sur la partie française et ailleurs?
Sur la partie française, nous avons actuellement des équipes qui sont totalement mobilisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je les salue d'ailleurs ce matin pour assurer la continuité de production de nos usines européennes, puisque vous savez que nous avons un certain nombre de pièces qui sont importées de Chine. Nous avons environ 300 fournisseurs chinois sur un total de 8000. Et ceci, évidemment, met nos usines européennes dans la dépendance de ces fournitures. Pour l'instant, nos usines fonctionnent à plein. Je salue le travail de nos équipes qui sont mobilisées pour protéger le fonctionnement de nos usines européennes. Pour l'instant,
mais
les choses se passent très bien.
Mais vous craignez, Carlos Tavares, que d'avoir Une carence en pièces détachées venant de Chine à un moment donné ?
Bien entendu. Si la situation venait à perdurer, ce risque-là existe. Pour l'instant, nous avons plusieurs semaines devant nous et nous veillons à mettre en place des moyens logistiques exceptionnels et à chercher et trouver des solutions de remplacement pour ces pièces.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il y a quelques jours, expliquait que justement ce coronavirus était un game changer dans la mondialisation, qu'il fallait s'interroger sur notre modèle, sur la localisation de certaines productions. Est-ce que c'est une déclaration que vous considérez comme démagogique ou est-ce que vous, au contraire, vous vous dites qu'il faut que l'on relocalise en France certaines productions de pièces détachées ?
Écoutez, c'est une déclaration qui fait sens, puisque nous n'avons pas attendu le coronavirus pour décider, par exemple, de créer un grand fournisseur de batteries et de cellules de batteries en Europe, pour éviter que 50% de la valeur ajoutée de nos véhicules européens ne parte en Asie. Et nous avons décidé, avec le gouvernement français, avec le gouvernement allemand et avec l'appui de la communauté européenne, de créer un grand fournisseur de cellules de batterie en Europe, ce qui revient à éviter que 40 à 50% de la valeur ajoutée des automobiles européennes ne parte en Asie.
Ça, c'est pour les voitures électriques dont on va parler, mais pour les voitures thermiques, est-ce que vous dites que dans les prochains mois, prochaines années, il faut diversifier vos approvisionnements pour ne pas dépendre trop de la Chine, trop de telles zones, faire revenir les productions ici. Est-ce que ça, c'est une décision stratégique que vous envisagez ?
On l'envisage tout à fait. Il faut évidemment prendre un peu de recul par rapport à la situation que nous vivons et se rendre compte que ce que nous emportons actuellement de Chine représente entre 3 et 4% en nombre de références de ce que nous importons du reste du monde. Donc, on est en train de traiter une question de 3 à 4%, mais chaque véhicule que nous vendons comporte environ 4000 pièces. Il suffit d'une pièce qui manque pour qu'on ne puisse pas fabriquer le véhicule complètement.
Si on vous entend, les effets sont pour le moment limités, même si vous venez de les décrire. Il y a quand même eu l'annulation du salon de Genève. Vous deviez, je crois, à cette occasion dévoiler justement un nouveau modèle. Quel est l'impact pour l'entreprise ? Est-ce que vous pouvez là faire comme si cette annulation n'existait pas ? Comment ça va se traduire pour vous ?
Vous avez raison, au salon de Genève, nous avions l'intention de présenter le vaisseau amiral de notre marque premium, la DS9, qui a été révélée sur les réseaux sociaux. Et évidemment, nous regrettons l'annulation, mais dans un même temps, nous sommes aussi tout à fait conscients que seule la rigueur et la discipline d'application des consignes pour contrer ce fléau feront la différence. Et donc, nous allons apporter évidemment tout notre concours à la mise en œuvre de ces
solutions. Combien, Carlos Tavares, concrètement, une annulation d'un salon comme celui-ci ?
Quelques millions d'euros.
Et concrètement, pour présenter ce nouveau modèle, s'il n'y a plus le salon, on fait comment ?
On utilise les réseaux sociaux. On présente les véhicules à distance avec des émissions comme celle de ce matin, avec des vidéocasts et on présente ces véhicules, ce qui évidemment n'empêche pas de les faire essayer le moment venu aux experts de l'automobile.
Mais au-delà de Genève, vous êtes capable aujourd'hui de chiffrer l'impact économique que peut avoir le coronavirus pour votre entreprise ? Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui moins de monde dans les concessions par exemple ?
Il y a deux volets. La question que vous posez est très importante. Il y a le volet offre, c'est-à-dire la capacité à produire les véhicules que nous voulons soumettre à la décision de nos clients, et il y a le volet demande. Pour l'instant, comme je vous ai dit, sur le volet offre, nous tenons les choses pour l'instant raisonnablement bien en main, puisque nos usines européennes fonctionnent à plein, et ça c'est grâce au travail de nos équipes de logistique et des achats notamment, et d'ingénierie. Et de l'autre côté, il y a le volet demande. Sur le volet demande, il faut évidemment éviter que la psychose s'empare du marché européen et faire en sorte que cette psychose ne s'empare pas du mental de nos consommateurs. Et pour cela, il faut appliquer avec rigueur et beaucoup de discipline les consignes pragmatiques qui nous sont proposées.
Mais dès aujourd'hui, vous commencez à mesurer un effet ou c'est beaucoup trop tôt pour le dire ?
C'est trop tôt pour le dire puisque aujourd'hui, nous sommes le 1er mars. Nous avons reçu les résultats du mois de février sur le marché français. Vous avez vu que le groupe PSA a fait une performance exceptionnelle au mois de février. Je salue nos commerçants qui ont fait un travail remarquable. Et donc, pour l'instant, non, nous ne mesurons pas un impact.
Est-ce que les concessionnaires vous disent les gens ne viennent plus parce qu'ils ont autre chose en tête ? C'est quand même un risque.
C'est un risque. Pour l'instant, nous ne mesurons pas.
Est-ce que, du coup, vous demandez à l'État aujourd'hui de prendre des mesures favorables au secteur automobile si jamais le coronavirus vient impacter vos ventes, c'est-à-dire des primes à l'achat, par exemple ?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, je pense que la priorité n'est pas là. Je pense que la priorité, c'est d'apporter notre contribution au combat contre ce fléau. Et la seule façon que nous ayons d'apporter notre contribution, c'est justement de faire notre part de cet effort. Et la part, c'est le pragmatisme, la rigueur et la discipline d'application des consignes qui nous sont proposées.
Certains estiment qu'il y a une psychose qui s'empare de la France et que les pouvoirs publics aussi, dans les mesures qu'ils préconisent, peuvent y participer. Est-ce que c'est une crainte que vous avez ?
Moi, ce que j'observe, c'est que la gestion de ces crises en matière de transparence, en matière de pragmatisme, est à un très bon niveau. Et je crois que ce que nous devons faire, et c'est ce que j'observe, c'est donner à nos concitoyens les informations telles qu'elles sont, avec les commentaires qui sont nécessaires pour qu'ils comprennent la situation. Mais je crois aussi que nous, les Européens, nous avons à apporter notre démonstration que nous sommes capables d'appliquer avec discipline des mesures pragmatiques de bon sens que nous pouvons comprendre. Et je salue d'ailleurs le pragmatisme et la transparence avec laquelle ces informations nous sont transmises. Je pense que de ce point de vue-là, c'est un travail de grande qualité.
Alors, passons à un autre sujet d'actualité de la semaine, c'est bien sûr la réforme des retraites qui vous impactera aussi dans vos entreprises. Le 49.3 a donc été actionné par le gouvernement, Édouard Philippe est venu l'annoncer hier aux parlementaires. Est-ce que, eh bien, quand vous voyez que ce 49.3 est appliqué, vous dites que c'est une bonne chose, qu'il fallait en terminer de cette réforme, ou au contraire, vous dites que le débat parlementaire va en pâtir?
Ce que j'observe, c'est que depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, où cette discussion a lieu, j'observe qu'au sein de PSA, notre démarche de co-construction avec nos partenaires sociaux a permis de maintenir l'entreprise à un très grand niveau de concentration, de sérénité et de travail. J'observe cela. J'observe que, évidemment, il faut tenir compte des inquiétudes, voire de l'anxiété, qui pourrait planer autour de l'existence même d'un système de retraite. Et il faut donc s'assurer tous ensemble avec nos partenaires sociaux, qu'il y a une méthodologie qui conduit au financement de ce système.
Mais vous y étiez favorable, vous, personnellement, Carlos Tavares, à cette réforme du système de retraite? Parce qu'on a entendu, par exemple, le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, MEDEF, dont vous êtes membre, dire que ce n'était pas une réforme impérative. Et pour vous?
Pour moi, ce qui est impératif, c'est d'envoyer un signal clair aux futures générations du fait qu'il y aura un système de retraite et qu'il sera correctement financé. Ça me paraît impératif. Et c'est le fondement de tout le reste. Après, on peut discuter de la justice sociale, on peut discuter de ceux qui veulent ou pas accepter des changements. Mais fondamentalement, le premier point qu'il faut assurer, est-ce qu'il y a véritablement un financement crédible dans lequel les prochaines générations vont croire?
Donc, le système tel que nous l'avions par répartition, est-ce qu'il était défaillant? Fallait-il en changer?
Ça dépend à qui vous posez la question. Ça dépend
alors,
à qui vous posez la question.
Alors je pose la question aux citoyens d'abord. Puis au patron de PSA. Alors, en tant que citoyen,
ce que je vous réponds, c'est que l'immobilisme tue.
Donc, vous y êtes favorable. Et en tant que patron de PSA?
Je n'y vois aucun inconvénient, puisque moi, je discute avec mes partenaires sociaux.
Vous nous dites que le point central, c'est le financement. Donc, là, on parle de la conférence de financement qui est en train de se jouer à côté de la loi. Vous parliez aussi de dialogue social. On a quand même l'impression que l'intérieur de cette conférence de financement, entre la CGT qui dit on ne veut plus y participer, la CFDT qui dit il n'y a pas de problème de financement, et le MEDEF qui dit si on ne fait pas le financement, nous, on s'en va, ce n'est pas très, très bien parti, là, le dialogue social.
Écoutez, vous interrogerez le gouvernement sur ce point, mais pas le patron de PSA.
Mais vous constatez que
le patron de PSA, lui, il gère la co-construction avec ses partenaires
sociaux.
Alors
justement,
c'est dans cette voie-là que nous sommes engagés.
Mais vous regardez ça de très près, nécessairement, de par votre fonction. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, au-delà de PSA, le dialogue social est abîmé en France?
Je considère que nous avons, dans notre pays, à retrouver une certaine forme de sérénité. Nous avons un niveau de tension dans le pays qui est effectivement très élevé, et ceci n'est bon pour personne. Il n'y a aucun citoyen français qui puisse bénéficier d'un climat exalté, d'un climat tendu, voire d'un climat agressif. Et donc j'en appelle à une certaine forme de bienveillance au sein de notre société, celle que nous essayons d'exprimer par la co-construction au sein du groupe PSA. Il faut une certaine dose de bienveillance, il faut une certaine dose de flexibilité mentale, il faut une certaine dose de profondeur de vue pour que le niveau d'agressivité et de tension que nous avons dans notre pays baisse.
Y compris de la part du gouvernement.
Bienveillance, Carlos Tavares, de la part du gouvernement également. Est-ce que ça peut aussi venir de décisions
De la part de chacun des citoyens français.
Y compris du gouvernement.
Est-ce que le gouvernement ne fait pas partie des citoyens?
Ils ont une responsabilité supplémentaire. Dans la baisse de la tension, Carlos Tavares, est-ce que le président de la République...
Nous avons tous à apporter notre contribution.
Dans ces tensions qui ont traversé la société française, il y a évidemment eu la crise des Gilets jaunes. Vous pensez que ce feu-là peut redémarrer?
Ce qui est intéressant d'observer, en tout cas moi ce que j'observe sur la crise des Gilets jaunes en tant que patron de PSA, c'est qu'elle a démarré sur une entrave à la liberté de mouvement.
En l'augmentation du prix de l'essence.
Et donc ça, c'est un point pour moi qui est très important. Nous qui sommes ici dans cette discussion, parce que le groupe PSA a une raison d'être qui est très claire, qui est d'offrir une mobilité propre, abordable et sûre à nos concitoyens, nous devons veiller à ce que cette liberté de mouvement soit préservée. Et tout ce qui constitue une entrave à la liberté de mouvement des citoyens constitue un point de tension et un point de concentration de cette même tension. Donc j'ai observé ça. Ceci nous dit quelque chose pour l'avenir, sur la manière dont nous devons préserver la liberté de mouvement. Ceci
donc,
nous dit aussi.
Il faut faire attention avant d'augmenter les taxes sur le carburant.
Pas que les taxes d'ailleurs, sur l'accès à la liberté de mouvement. Ceci nous dit aussi une deuxième chose, c'est que la liberté de mouvement dans les milieux ruraux n'est pas perçue de la même manière que dans les milieux urbains. Et donc il faut aussi veiller à aborder les deux sujets avec une égale concentration, une égale attention.
C'est-à-dire que nous avons des politiques un peu bobos qui ne perçoivent pas aussi ce qui peut se passer dans en région.
Nous devons constater que les décideurs sont généralement des personnes qui habitent en milieu urbain et qu'une partie de la population n'habite pas par définition en milieu urbain. Donc nous devons nous concentrer sur les deux dimensions de la mobilité, parce que par exemple en milieu rural, la mobilité c'est l'accès à l'emploi, tout simplement. Oui. Et de façon très basique.
Alors, par exemple, sur une question très concrète, des 80 km/h. Quand vous avez vu ce passage de 90 à 80 km/h, Costares, est-ce que vous vous êtes dit, bien que les pouvoirs publics en faisaient trop et qu'ils ne comprenaient pas les préoccupations de leurs concitoyens ?
Ce qui est certain, c'est que depuis maintenant 20 ans, nous avons fait des progrès absolument considérables sur la réduction de la mortalité sur les routes. Et donc, il faut s'en féliciter. C'est des progrès fantastiques. Nous observons aussi que depuis quelques années, il y a un début de stagnation de l'amélioration de ces résultats et qu'il faut aussi se préoccuper de comprendre quelles sont les raisons qui sont derrière cette stagnation de ces résultats. Il faut se poser la question de savoir si le passage à 80 km/h est l'élément déterminant de cette stagnation. À titre personnel, je pense qu'il y en a bien d'autres, comme l'attention au volant, comme tout ce qui relève de l'amélioration des infrastructures, et que nous avons à un moment donné, lorsque vous arrivez à saturation de ce progrès-là, à nous poser la question de la bienveillance et de ce que nous demandons à nos concitoyens.
Donc là, on en demande trop, si je vous entends bien, Carlos Tavares.
Non, je pense qu'il faut faire appel à une intelligence collective supérieure. Je pense que nous arrivons à un moment où, pour faire des progrès significatifs sur la mortalité sur nos routes, il faut maintenant que chacun y apporte une contribution supplémentaire en termes d'attention, en termes de bienveillance et en termes de réduction d'agressivité.
Mais vous comprenez les départements qui reviennent à 90 km/h ?
Je comprends parfaitement, oui, bien sûr.
Vous parliez tout à l'heure de la place des citoyens dans le débat. Il y a une convention citoyenne pour le climat qui a été réunie, qui travaille depuis plusieurs mois et qui fait pour le coup, à ce stade, des propositions qui vont plutôt dans le sens de ce que vous appeliez tout à l'heure l'entrave. Ça peut être revenir sur la taxe carbone, ça peut être une augmentation du prix des carburants. Est-ce que vous dites que cette lutte contre la pollution telle qu'elle est imaginée là, à ce stade, va dans la mauvaise direction ?
Je ne dirais pas ça, mais je pense que nous manquons cruellement de profondeur de champ. Je pense que le raisonnement doit se déployer à partir de la description de ce qu'est un projet de société, d'une société décarbonée heureuse. Or aujourd'hui, il y a peu de personnes qui sont capables de nous décrire. À partir du moment où vous êtes capable de décrire ce qu'est une société décarbonée heureuse, vous pouvez déployer ceci et définir quelle est la place que vous voulez réserver à des moyens de mobilité individuels, que ce soit dans les milieux urbains ou dans les milieux ruraux. Et à partir de là, nous, les constructeurs automobiles, nous allons vous offrir les solutions techniques.
Mais est-ce qu'il y a urgence à le faire ? Parce que là, vous parlez d'un horizon. Certains disent que c'est un horizon qui est trop lointain, qu'on n'a pas le temps de faire une transition longue, qu'il faut agir maintenant et pour préserver la planète et pour préserver notre santé.
Tout à fait d'accord avec ce propos-là. Il n'y a aucune raison d'attendre. Et d'ailleurs, nous n'attendons pas, puisque les véhicules électriques, les véhicules hybrides sont en vente.
Malgré tout, quand vous dénoncez la pensée unique en matière d'empreinte carbone, c'est un peu, vous dites qu'on en fait un peu beaucoup aujourd'hui sur les affaires d'émissions de CO2.
Non, je dis simplement que dans une société démocratique évoluée, il faut expliquer tous les effets de bord des décisions que nous prenons. Il faut que les études d'impact soient portées à la connaissance de la population.
Et c'est pas le cas aujourd'hui.
C'est évidemment pas le cas, c'est évident.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de diminuer les émissions carbone ont des effets qu'on ne mesure pas ?
En tout cas, des effets qui ne sont pas expliqués à la population.
Par exemple ?
Parce que simplement, on n'explique pas quelle est la vision destination vers laquelle on veut politiquement emmener la société.
Mais qu'on comprenne bien, c'est quoi ces effets ?
Par exemple, la dimension économique des conséquences des décisions que nous prenons. Et donc, il faut être capable de donner cette approche complète. Je vous donne un exemple très simple. On peut toujours demander aux constructeurs automobiles de faire des véhicules zéro émission. Et nous l'avons fait puisqu'ils sont en vente. Donc, ils sont achetables. Est-ce que ceci va résoudre la totalité du problème ? Évidemment non. Il va falloir se préoccuper de la production d'énergie électrique, il va falloir se préoccuper de la fabrication des batteries, il va falloir se préoccuper de l'investissement des infrastructures, il va falloir se préoccuper des recettes fiscales qui sont associées à ce changement de mode de transport. Et donc l'ensemble de cette problématique 360 degrés doit être géré de manière stratégique.
On va y venir, Carlos Tavares, mais quand vous dites jusqu'à quand les citoyens européens se laisseront-ils dicter par la pensée unique ce qui est bien ou mal ? Ou, je vous cite encore, le risque est de ne plus pouvoir passer ses vacances au-delà d'un rayon de 100 km. Est-ce que vous n'êtes pas à contre-courant de l'histoire? Est-ce que, quand on vous entend, on se dit que la pollution, c'est pas forcément votre priorité?
C'est pas ce que je dis, mais j'assume pleinement les propos que vous avez rapportés.
C'est des propos que vous avez tenus au centre Francfort?
Absolument, absolument. Et donc, je les assume pleinement.
Oui.
Je pense que nous avons un intérêt, nous, les citoyens des démocraties modernes, à nous rendre compte que nous avons une forme de superficialité dans notre raisonnement qui constitue une limitation de notre système politique et démocratique actuel. Et que nous devons veiller à ne pas réagir sur des impulsions et sur des pulsions qui ne sont pas suffisamment profondes dans la manière d'aborder le sujet.
Ça veut dire que les pouvoirs publics en font trop, si je vous écoute. Ils sont impulsifs, ils ne réagissent pas en fonction des données d'experts et scientifiques.
Je ne suis pas d'accord avec votre propos, si vous me le permettez. Parce que, oui, les pouvoirs publics, ils réagissent en fonction de quoi? En fonction de l'opinion publique.
Ils sont démagogiques.
Et l'opinion publique, c'est nous. Et donc, si nous raisonnons de manière superficielle, eh bien, ceux qui nous représentent ont à leur tour la possibilité
de... Est-ce que c'est de la démagogie? Non, mais vous définissez ce qui peut être considéré comme la démagogie.
Il faut aborder les problèmes sous un angle 360
degrés. Mais quand vous parlez de conséquences potentielles économiques, est-ce que ça veut dire que ces mesures-là peuvent avoir des conséquences, par exemple, sur l'emploi? Quand le Parlement européen dit qu'il faut réduire les émissions carbone de 40%, vous dites on risque d'être obligé de licencier. C'est ça l'effet économique potentiel?
Vous avez devant vous l'ancien président de l'Association des constructeurs automobiles européens qui a répété ça pendant 2 ans sans que personne ait envie de l'écouter.
Donc vous dites, à force de limiter les émissions carbone, on va finir par licencier des...
Il vous suffit d'écouter ce que dit le syndicat allemand IG Metall qui vous dit qu'il y a 100 000 emplois qui sont en jeu dans l'industrie automobile allemande liés à ce phénomène-là.
Mais vous ne croyez pas ce que disent certains, pour le coup, écologistes et qui ne s'en cachent pas, qui expliquent que c'est une question de modèle et qu'en fait, il ne faut pas raisonner avec le modèle d'aujourd'hui, mais transformer notre société et que l'emploi, on le trouvera, mais on le trouvera dans d'autres secteurs qui seront liés à cette transition écologique.
Exactement. Et là, vous êtes exactement sur mon point, qui est tout à fait celui-là, c'est-à-dire que si aujourd'hui on doit faire des efforts et on les fait immédiatement, c'est dans la perspective d'une vision destination d'une société décarbonée heureuse, mais il faut la décrire. Mais il faut expliquer quel est ce système qui va permettre de se récupérer sur un autre mode de fonctionnement qui sera cohérent des objectifs.
Mais vous dites aujourd'hui on l'a pas finalement ce nouveau modèle, tout ça c'est...
Je ne l'ai pas encore trouvé.
Est-ce que par exemple dans ce nouveau modèle, l'entrée en vigueur d'un malus écologique augmenté, ce malus va augmenter de 10 500 à 20 000 euros, ça entre en vigueur aujourd'hui. Est-ce que vous dites, en effet, c'est une manière incitative de transition écologique ou c'est exagéré?
C'est évidemment incitatif et dans le même temps, c'est très punitif. La question qui se pose à nous, c'est que si nous voulons évoluer vers un autre modèle de société tel que celui que vous évoquiez tout à l'heure, qu'il est bien difficile aujourd'hui de décrire à nos concitoyens, encore faut-il se dire que comme dans une entreprise qui a à se redresser, vous n'y arriverez que si vous attirez à vous toutes les bonnes volontés de l'ensemble des membres de la société. Et donc, une dimension qui serait uniquement basée sur le limitatif et le punitif a peu de chances.
C'est une mauvaise décision, Carlos Tavares.
C'est une décision parmi d'autres, mais il faut quelque chose de plus inspirant. Il faut quelque chose de plus joyeux. Il faut quelque chose qui nous attire vers une vision destination d'un mode de vie différent.
Les écologistes disent, si on veut faire changer les comportements des gens, c'est pas en étant joyeux qu'on va les faire changer.
On verra à quel résultat ceci nous conduira, si on est uniquement punitif.
Vous dites, par exemple, il ne faut pas de fiscalité écologique. Il ne faut pas, par exemple, il y a une réflexion il y a quelques mois à l'Assemblée dans les rangs de La République En Marche pour une taxe sur les SUV, par exemple, qu'on pourrait imaginer au poids de la voiture pour les modèles les plus lourds et donc aussi souvent consommateurs. Ça, par exemple, c'est forcément inimaginable pour vous.
Ce n'est pas inimaginable, à condition que vous ayez la capacité de décrire votre vision destination et qu'elle soit incitative et inspirante.
Oui, mais vous dites vous-même que vous ne voyez pas le projet de demain. Comment faire aujourd'hui, si on n'a pas le projet de demain? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui prendre des mesures pour régler les problèmes aujourd'hui de pollution, de santé?
De toute évidence, c'est ce qui est fait. De toute évidence, nous y répondons, nous, le groupe PSA.
Subissez.
Mais on voit
vous
très bien,
adhérez pas.
On voit très bien que le problème, il est bien plus important que de faire une taxe supplémentaire sur les grosses voitures.
Mais au fond,
ça ne répond pas au problème.
Et donc, si vous ne faites que ça, et si vous alignez 10 mesures comme celle-là, vous allez rester à la surface du problème.
Mais quand
vous avez besoin de la bonne volonté des citoyens pour aller dans la bonne direction. Et cette bonne volonté, vous n'allez la capter qu'à condition de les inspirer sur un modèle de société vers lequel ils ont envie d'évoluer.
Carlos Tavares, vous nous dites en gros c'est du car-bashing, du dénigrement pour l'instant de la part des pouvoirs publics. C'est d'abord cela.
Les pouvoirs publics, ils sont orientés sur l'opinion publique. Et l'opinion publique, c'est vous et moi.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, Carlos Tavares, vous dites
c'est ça le sujet,
que vous avez une responsabilité en tant que constructeur automobile dans la dégradation du climat, de l'état de la planète et de la santé de nos concitoyens ?
La responsabilité, elle est d'abord dans la fixation des règles et des normes que nous respectons scrupuleusement. À partir du moment où nous respectons ces règles et ces normes scrupuleusement, notre responsabilité n'est pas engagée. Néanmoins, ceci ne nous empêche pas d'avoir notre contribution pour faire évoluer ces normes et ces règlements dans le sens qui permet de traiter le problème. Et nous l'avons fait puisque dès 2014, là où l'entreprise était encore dans sa première étape de redressement, nous avons décidé le développement des technologies qui nous permettent aujourd'hui de vendre les véhicules électriques et les véhicules hybrides que nos concitoyens peuvent acheter. Et donc, vous voyez bien que nous n'avons pas attendu. Mais je voudrais vous amener, et nos concitoyens, à réfléchir à quelque chose de plus profond. Nous avons besoin de définir ce qu'est ce modèle de société décarboné heureux, vers lequel les efforts que nous allons faire sont des efforts consentis, et non pas
alors,
des efforts
Carlos
qui relèvent
justement,
d'une coercition.
Est-ce que parmi ces critères de société décarbonée heureuse, il y a les propositions des candidats aux municipales qui pullulent, hein, l'interdiction des voitures près des écoles. Anne Hidalgo à Paris veut supprimer 60 000 places de parking, la moitié des places de parking à Paris. Ça vous inspire quoi, ça ?
Ça m'inspire que, là encore, comme pour la société, les grandes villes, comme Paris et bien d'autres, ont à définir quelle est la place qu'ils veulent réserver
très peu
aux objets de mobilité individuelle. Et donc, il faut répondre à la question, voulez-vous supprimer toute possibilité de mobilité individuelle pour ne réserver la mobilité en milieu urbain qu'au transport collectif ? C'est ça la question à laquelle il faut répondre. Si telle est la réponse, on s'adaptera. Ceci n'est pas un problème de fond. D'ailleurs, cette semaine, nous avons présenté un objet de mobilité qui s'appelle l'AMI, la Citroën AMI, qui est un objet de mobilité de place, avec un chauffage, des portes, qui est accessible à 19,99€ par mois et qui permet de se déplacer en zéro émission. Donc, vous voyez, nous avons des solutions à apporter avec une empreinte au sol qui est extrêmement réduite. Encore, il faut nous dire dans quelle direction vous voulez évoluer.
C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour, monsieur Tavares. Yann Ogras, secrétaire d'Elessi, la souterraine. PSA s'était engagé à la reprise de GMS par Elessi, groupe GMD. Un chiffre d'affaires par an de 12 millions d'euros pendant 5 ans pour le site creusois. Engagement pris devant M. Bruno Le Maire à Bercy. 2018, 6,7 millions. 2019, 6,4 millions. 2020, 5,1 millions. Soit une perte de 17,8 millions sur 3 ans. PSA compte-t-il compenser nos pertes ? Devons-nous nous attendre à un nouveau plan social avant la fin de ces engagements ?
Voilà ce que vous dit Monsieur Ogras, c'était de GMS, hein, cette société qui avait beaucoup fait parler pendant la dernière campagne présidentielle, que le manque à gagner est important puisque vous n'avez pas tenu vos engagements de 12 millions d'euros par an de commandes sur 5 ans. Vous n'êtes qu'à la moitié aujourd'hui.
Cet exemple-là est un exemple important et qui montre clairement que lorsqu'on oublie dans notre monde occidental que seule la performance protège, on met nos entreprises en difficulté et les humains qui travaillent dans ces entreprises. Donc, le premier élément de réflexion que nous devons partager, c'est qu'il ne faut pas désincarner l'entreprise. L'entreprise est un lieu où on trouve des êtres humains qui partagent une même destinée professionnelle. Et donc, si vous ne veillez pas à protéger la performance de votre entreprise, un jour, des choses désagréables se produisent dans votre entreprise. Et évidemment, l'entreprise, ce sont d'abord des êtres humains. C'est ce qui s'est passé avec ce fournisseur, qui, à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, a pris la décision de ne plus fournir de pièces au groupe PSA, mettant en péril le fonctionnement des usines du groupe PSA, et de ce fait, rompant unilatéralement le contrat de fourniture qu'il avait avec notre entreprise.
Donc c'est de leur fait
C'est la première étape. Il faut la comprendre, parce que si vous comprenez pas la cause racine du problème, qui est de protéger son entreprise au travers d'une performance qui est le résultat de l'intelligence collective des êtres humains de l'entreprise, à un moment donné, vous mettez votre entreprise en péril. Et il est dans ma responsabilité de mandataire social de protéger aussi mes propres collaborateurs qui, eux, ont envie de continuer à faire fonctionner leurs usines. Eh bien, nous avons pris ces engagements. Ces commandes, elles existent. Je m'inscris totalement en faux sur ce qui a été dit. Et si cette entreprise veut fabriquer les pièces à hauteur du montant qui a été affiché, eh bien, nous payerons ces pièces et nous les montrons sur nos automobiles.
Le message est passé. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de ce grand jury de Carlos Tavares. À tout de suite.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le PDG du groupe PSA Peugeot Citroën, Carlos Tavares. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Adrien Jeanne de TF1 LCI, Alexis Brézé du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Oui, nous parlions dans la première partie d'un nouveau modèle écologique de la société décarbonée heureuse, dont vous disiez qu'on ne la prépare pas suffisamment, en tout cas pas assez précisément. Qu'est-ce que vous pensez de Greta Thunberg ? Est-ce qu'elle la représente, cette société décarbonée heureuse ?
En tout cas, elle nous rappelle à nos responsabilités, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et elle nous incite à décrire cette société. Ce serait d'ailleurs intéressant de lui poser la question, de savoir quelle est la société à laquelle elle aspire et la prochaine génération avec elle. C'est, je crois, l'élément essentiel. C'est-à-dire que la responsabilité de notre génération, en tout cas de la mienne, c'est de fournir le bout de chemin qui permet d'aller dans cette direction. Et en termes de liberté de mouvement, la raison d'être du groupe PSA est totalement orientée vers cela. Mais évidemment, la question, il faut la poser à la génération future. Je voudrais à ce propos-là vous dire que nous avons mis en place au sein du groupe PSA un groupe constitué de personnes qui ont un âge de l'ordre de 30 et quelques années, qui a pour mission de réfléchir aux décisions que nous devrions prendre pour faire en sorte que notre entreprise soit totalement décarbonée. Et à l'horizon 2030, 2040 ou 2050. Et donc, ils vont
ça,
nous dire...
Ça vous paraît envisageable, dans un futur proche, une société où il n'y aurait plus de voitures à moteur thermique?
Ça me paraît envisageable de considérer que, dans la raison d'être de notre entreprise, qui est d'offrir une mobilité sûre, propre et abordable, on le fasse au travers d'une entreprise qui soit décarbonée. Et c'est à ça que nous réfléchissons avec la génération suivante.
Adrien. Alors, ce modèle de société, on en parlera sans attendre 2030 et 2040. En 2022, au moment de l'élection présidentielle, les Français auront une nouvelle fois à faire un choix. Si jamais Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, était élue présidente de la République, est-ce que ça changerait quelque chose pour votre groupe? Qu'est-ce que ça changerait, le cas échéant?
Notre groupe PSA est évidemment une entreprise légaliste. Donc nous sommes une entreprise qui respecte l'ensemble des lois et les règlements des pays dans lesquels nous opérons. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement puisque nous allons respecter les lois et les règlements qui sont en principe le résultat de ce que souhaite le peuple. Ce sont les représentants du peuple qui, à l'Assemblée, décident des lois et des règlements. La responsabilité de notre entreprise, c'est de nous inscrire pleinement dans le respect de ces règles et évidemment d'apporter notre contribution à la pérennité et à la richesse de cette société. C'est ce que nous avons fait, par exemple, en générant un excédent de la balance commerciale française en 2019 de 4 milliards d'euros. Sur les 6 dernières années, c'est pas moins de 25 milliards d'euros d'excédent commercial que notre entreprise a généré pour la France.
Et le rapport différent de Marine Le Pen aux frontières, aux importations, aux droits de douane?
Tout ceci, évidemment, doit être évalué. On voit bien qu'en ce moment, il y a un certain nombre de freins à la globalisation du commerce mondial. Les conséquences de ces freins ne sont pas encore connues aujourd'hui, mais nous aurons à y réfléchir dans l'avenir, bien entendu.
Est-ce même que la politique, c'est un horizon qui peut vous intéresser un jour prochain, après PSA?
La réponse est clairement non, pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est qu'on voit bien que dans nos sociétés européennes, nous avons un problème avec le pouvoir, nous avons un problème avec le leadership. Et on voit bien que dans les sociétés européennes, le pouvoir qui est décidé le dimanche n'est pas forcément accepté le lundi. Ceci me pose à titre personnel une difficulté. Car moi, j'aime bien travailler avec les gens, j'aime bien travailler avec les contradicteurs, j'aime bien travailler avec ceux qui sont exigeants et qui nous posent des questions difficiles. C'est ce que nous faisons au sein de PSA.
Ça veut dire que les politiques n'écoutent pas assez leurs concitoyens, ils n'échangent pas suffisamment.
J'observe en tant que dirigeant d'entreprise que je suis un privilégié d'avoir la possibilité de travailler avec des gens qui ont envie, avec moi, d'emmener l'entreprise vers plus de performance. J'observe qu'un certain nombre de nos politiques, et c'est pour ça que je ne leur jette pas la pierre, ils sont élus le dimanche et dès le lundi, ils sont challengés sur ce qu'ils ont proposé le dimanche et qui leur a permis d'être élus. Je pense que ça, c'est une réflexion pour nous les citoyens. Ce n'est pas une réflexion pour les politiques. Il faut que nous les citoyens, dans les pays démocratiques européens, on se pose la question de savoir quel est le sens d'élire des dirigeants le dimanche que l'on va critiquer dès le lundi matin pour la mise en œuvre de leur propre programme.
Mais
ceci pose un problème.
Mais vous dites que les méthodes dont vous nous dites qu'elles fonctionnent dans l'entreprise, de dialogue, de participation, seraient finalement applicables dans l'ordre de la vie publique, ou que ce sont deux choses tout à fait différentes et qu'il ne faut surtout pas appliquer les méthodes de l'un à l'autre?
C'est une excellente question. Peut-être qu'elles le sont, peut-être qu'elles ne le sont pas. Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les accords de PSA que nous signons avec nos partenaires réformistes sont signés avec des gens qui représentent 80% du personnel de l'entreprise. Ce qui veut dire que lorsque je suis interpellé par un représentant des 20% restants, qui me dit « Monsieur le Président, il faut aller dans telle direction plutôt que telle autre », eh bien, j'ai la facilité de répondre « Je comprends bien le fond de ce que vous me dites. Éventuellement, je pourrais être d'accord, mais vous comprendrez que j'ai 80% de mon personnel qui me dit d'aller dans cette direction-là, donc je vais plutôt dans cette direction-là. Et donc, cette chance que j'ai, ce privilège que j'ai de travailler avec des partenaires réformistes qui m'apportent les 80% du
soutien... Les politiques ne l'ont pas, cette chance.
De toute évidence, non.
Alors, on va venir...
Alors, comment font-ils? C'est pour ça que je ne leur jette pas la pierre. C'est très difficile d'exercer en ce moment en Europe un quelconque leadership. Très difficile.
On va revenir au dialogue social dans votre entreprise, notamment sur les salaires. Juste une question, puisque nous parlions de Marine Le Pen. Marion Maréchal a été, à un moment donné, invitée par le MEDEF l'été dernier. Est-ce que vous trouviez, finalement ça a été annulé, est-ce que vous trouviez que c'était judicieux de la part du patron du MEDEF?
C'est à lui de juger. Il est évident qu'on ne peut pas exercer un rôle quel qu'il soit de leadership si on ne tient pas compte des sensibilités, des émotions des parties prenantes de la société dans laquelle évolue. Et il faut en tenir compte, bien entendu.
Il aurait mieux fait de s'abstenir
à ce
moment-là.
Donc peut-être que ce n'était pas ce qu'il y avait de plus habile à faire. Maintenant, sur le fond, est-ce que ça pose un problème de fond? Je ne crois pas que ça pose un problème de fond.
Adrien Jean.
On parlait à l'instant de la difficulté avec vous d'être politique, des critiques dont ils sont l'objet, dont ils font l'objet. Il y en a également très souvent sur leur salaire et sur leur niveau de vie. Vous, en tant que patron de groupe, vous me corrigez si je me trompe, vous êtes payé plusieurs millions d'euros par an, un peu plus de 7 millions dans les derniers chiffres qui avaient été rendus publics. Est-ce que vous comprenez que des interrogations puissent se faire sur le montant de ces salaires et sur la réflexion que l'on pourrait mener sur l'encadrement, la limitation? La France Insoumise avait proposé lors de la dernière présidentielle de limiter au sein des entreprises un écart de 1 à 20, par exemple, entre le plus bas et le plus haut de l'échelle. Quelle est, vous, votre position sur ça?
C'est une excellente question et, vous voyez, pour rester sur... le thème de tout à l'heure où on parlait de la superficialité de la pensée unique, j'aurais envie très amicalement de vous répondre d'abord que ça me regarde. Mais je veux bien discuter avec vous en tant que citoyen.
De savoir ce que vous pensez sur l'écart?
Bien entendu. Mais je veux bien discuter avec vous en tant que citoyen sur ce sujet-là. Là encore, la question à se poser, c'est quoi les conséquences de ce que vous avez décrit? Si on venait à appliquer cette règle-là, quelles en seraient les conséquences? Est-ce que vous souhaitez qu'on ait des conséquences qui soient de la même nature que la problématique des politiques que nous avons aujourd'hui? Vous avez cette réflexion à mener. Et si vous restez sur la surface de la réflexion, vous n'allez pas avoir accès à ces conséquences.
C'est-à-dire la fuite des cerveaux, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des...
Par exemple, bien entendu.
C'est-à-dire que vous, par exemple, si vous aviez un salaire bien moindre, vous pourriez vous dire, peux aller voir ailleurs.
La question se poserait, bien entendu, comme pour n'importe quel être humain. Et donc, ça, c'est une superficialité que nous devons aussi essayer de combattre. Tant que nous restons à la surface des pulsions et des impulsions qui nous sont envoyées par un certain nombre de chiffres comme celui que vous avez mentionné, vous avez évidemment cette question-là à vous poser. Dans notre cas, vous ne devez pas oublier que nous avons une gouvernance qui est extrêmement claire et duale dans notre entreprise, qui fait que le salaire du patron de l'entreprise est décidé par le conseil de surveillance et non pas par le directoire. Donc ce n'est pas moi, évidemment, qui décide de mon salaire. C'est le conseil de surveillance qui décide. Moi, l'option que j'ai, c'est dire oui ou c'est dire non.
Mais est-ce que Patrick Pouyanné, qui était patron de Total, était à votre place il y a pile un an, il assumait totalement son salaire. Est-ce que vous, parfois, vous dites, vous gagnez 20 000 euros par jour, disons un syndicat, si on rapporte à la journée, dimanche compris, est-ce que vous vous dites, oui, je peux comprendre que ça crée un certain émoi?
Je peux comprendre que ça crée des interrogations, un certain émoi, mais je peux aussi vous dire, pour que les choses soient claires, que depuis 6 ans, nous avons multiplié par 5 le montant des primes de performance et d'intéressement que nous reversons à nos collaborateurs. Je peux aussi vous dire que sur 10 ans, le montant des primes de performance et d'intéressement qui ont été versées à nos salariés est du même ordre de grandeur que le montant des dividendes qui est versé à nos actionnaires. Et donc, évidemment, nous pouvons dire que notre société n'est pas parfaite. C'est une réalité. Je peux aussi vous dire qu'il n'est pas dans la mission et la raison d'être du groupe PSA de traiter tous les problèmes de la société imparfaite dans laquelle nous opérons.
Mais puisqu'on était sur la comparaison entre économie, vie des sociétés et politique, est-ce que vous considérez, par exemple, que le président de la République est trop peu payé par rapport aux missions qui sont les siennes, à la responsabilité qui est la sienne, et que cela peut justement appauvrir la classe politique et le niveau de compétences attendu d'un chef de l'État?
Je pense que cette question que vous soulevez là, elle mérite bien plus que 20 secondes de réponse de ma part. Je pense que c'est une vraie question de fond des démocraties européennes, savoir si c'est dans notre intérêt, nous, les citoyens, de mettre au pouvoir, à la tête de nations aussi puissantes et aussi riches que la France, des personnes qui seraient finalement aussi faiblement rémunérées. La question, il faut se la poser. Alors évidemment, ça peut déclencher des tas de réactions négatives, mais la question, il faut se la poser. Puisqu'il y a quelques instants, nous disions qu'il y avait un certain nombre de choses qui, dans nos démocraties européennes, ne fonctionnaient pas très bien. Mais il faut bien chercher les causes de tout ça. Il faut bien se poser ces questions. Soit nous voulons avoir à la tête de nos pays, à la tête de nos entreprises, les individus qui ont les capacités les plus importantes et faire en sorte qu'ils trouvent évidemment leur intérêt dans cette approche. Soit il faut complètement changer l'échelle de valeur de la société. Et comme on le disait tout à l'heure, on peut décrire un autre modèle de société à condition qu'on soit capable de construire le chemin pour parvenir à cette vision destination. Pour l'instant, j'observe que cette proposition-là n'est pas sur la table.
Carlos Arez, vous allez être en train de fusionner avec Fiat. Hein. D'ailleurs, comment va s'appeler le nouveau groupe? Est-ce que vous pouvez nous dire?
C'est pas encore décidé. Nous sommes dans la partie du brainstorming pour l'instant.
Ah, vous avez une idée, vous?
J'ai quelques préférences, mais je ne vais pas les partager avec vous aujourd'hui. Dommage.
Bon, 400 000 salariés.
C'est à base de Peugeot et de Fiat, le nom?
Ce sera quelque chose qui nous permettra d'ouvrir un nouveau chemin pour essayer de créer une nouvelle entreprise. Donc, je ne veux pas décrire par le négatif la réponse à la question, je ne veux pas répondre.
400 000 salariés, si 170 milliards de chiffre
d'affaires. Il ne devrait y avoir ni Peugeot, ni Fiat, si c'est
vous
nouveau.
Vous verrez.
Bon, on ne saura pas.
Donc, vous ne saurez pas, désolé.
400 000 salariés, 170 milliards de chiffre d'affaires, vous serez le quatrième constructeur automobile mondial. Alors, certains se disent, bon, est-ce que Carlos Tavares n'a pas les yeux plus gros que le ventre? Parce que le marché automobile, vous dites vous-même, n'est pas dans une situation florissante. Hein. Encore en France, il vient de baisser globalement au mois de janvier et février. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à cela?
D'abord, je réponds que oui, le marché français, il a diminué, mais que la part de PSA a augmenté. Et que nous avons plusieurs marques qui sont dans une santé incroyable, comme par exemple Peugeot, qui met 3 Peugeot sur les 5 premiers du marché français. Ce que je réponds aussi, c'est que, bien sûr, le marché, il est en difficulté. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais ce n'est pas l'immobilisme qui va nous protéger vis-à-vis de ces difficultés. C'est au contraire la capacité à amener 2 entreprises qui sont en bonne santé dans un projet commun qui permet de faire face aux différents défis que nous avons devant nous avec de lourds investissements dans de nouvelles technologies, beaucoup de fluctuations sur les marchés mondiaux qui nous font craindre qu'une dépendance trop forte vis-à-vis d'une région pourrait mettre à mal la pérennité de l'entreprise. Et donc, donner à cette entreprise une taille mondiale, c'est une forme de protection.
Mais en même temps, les fusions, c'est quand même un processus qui est difficile. On a vu récemment avec notamment Renault-Nissan que parfois les cultures avaient du mal à se marier, même si ça produit aussi des résultats. Qu'est-ce qu'au fond qui garantit que ça va prendre une fusion entre deux groupes?
C'est très intéressant sur un plan sociétal de constater que nous sommes tous à la recherche de certitudes.
Et là, vous dites qu'il n'y en a pas.
Eh bien, les certitudes, ça n'existe pas. Et donc, ce qu'il faut, c'est que
vous prenez votre risque.
Ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne où sont les risques. D'abord, je vous fais observer que Renault-Nissan n'est pas une fusion.
C'est vrai.
C'est un groupe qui est constitué d'une participation croisée. Nous avons voulu faire une fusion justement pour que les questions de la nature que je viens d'évoquer ne se posent pas. Donc, c'est une fusion. C'est une famille recomposée. Ce sont 2 familles qui se portent bien, qui ont la maturité de comprendre qu'il y a une complémentarité fabuleuse du point de vue géographique et technologique pour affronter ensemble les défis de demain. Et donc, effectivement, l'élément le plus important, ce sera le human touch. Ce sera la capacité à comprendre les attentes des uns et des autres, savoir qu'est-ce qui intéresse les uns et les autres pour amener l'ensemble de cette famille dans la même direction, toujours, évidemment, sous le thème de la performance, puisque c'est la seule chose qui
vous
nous
protège. Vous parlez de complémentarité géographique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fiat, par exemple, est davantage présent aux États-Unis?
Ça veut dire qu'effectivement, nous avons, nous, Européens, une vision très, très limitative de ce qu'est FCA, puisque FCA est extrêmement puissant en Amérique du Nord et en Amérique latine. Et donc, la force de FCA aux Amériques vient s'ajouter à la force de PSA en Europe, et donc nous allons constituer
mais
un groupe.
Ni les uns ni les autres, vous êtes très présents en Chine et en Asie, enfin on a vu les difficultés qu'il y avait
c'est
derrière.
C'est exact, et c'est la raison pour laquelle, pour nous deux, ça représente une opportunité de repartir sur un pied nouveau, voire différent, en Chine, lorsque la fusion sera réalisée.
Dites-nous, Carlos Tavares, vous allez mettre le nouveau siège aux Pays-Bas. Laurent Berger, qui est patron de la CFDT, qui est un syndicat réformiste auquel vous êtes attaché, dit que c'est objectivement scandaleux. Pourquoi
Il dit que c'est pour des raisons fiscales, c'est ça qu'il veut dire.
Voilà, aussi. Alors, qu'est-ce que vous répondez?
Alors, 2 éléments de réponse. D'abord, un élément de réponse qui est factuel, vous pourrez le confirmer. C'est que depuis, à partir de 2021, il n'y a aucun avantage fiscal à aller aux Pays-Bas. Point numéro 1.
Oui. Pourquoi y aller?
Donc ça, vous pouvez le vérifier. Il n'y a absolument aucun avantage fiscal à aller aux Pays-Bas. Donc, ce n'est pas pour cette raison. Mais non, mais je vous réponds sous forme d'une question. Qu'auriez-vous pensé si le siège de cette nouvelle entreprise avait été à Turin?
Ah ben je vous laisse y répondre.
Et inversement, qu'auraient pensé les médias italiens si le siège de la nouvelle entreprise avait été à Paris? Ben vous avez la réponse à la question.
Donc pour vous...
C'est une entreprise européenne, comme le groupe Airbus,
comme beaucoup d'autres.
Mais est-ce que ça n'aurait pas été un signal positif pour la réindustrialisation en France,
c'est une
symbolique
fusion.
Pour vous?
C'est une fusion 50-50.
Ah, une question quand même sur les effectifs, Carlos Tavares. Pour ce qui concerne le groupe PSA, en 15 ans, on est passé de 126 000 salariés à 51 000. Est-ce que vous considérez qu'on est désormais arrivé au bon chiffre, au bon nombre, et que cet équilibre peut être maintenu, ou qu'en fait c'est un chemin qui va se poursuivre et que le nombre de salariés en France a vocation encore à diminuer?
C'est une question extrêmement importante et donc il va falloir que vous me donniez 2 minutes pour y répondre, ce qui va être difficile. Mais je vous réponds. D'abord, nous sommes pratiquement maintenant l'entreprise automobile au monde la plus efficiente. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de constater que nous nous battons pour être numéro un avec FCA. Et donc, FCA et PSA sont parmi les entreprises automobiles au monde les plus efficientes de ce point de vue-là. Donc, ça nous donne une indication qui est
FCA,
que...
FCA, c'est le groupe Fiat.
Fiat Chrysler.
FCA, c'est Fiat Chrysler Automobile. Ça nous donne une indication qui est de dire qu'a priori, les choses vont normalement se stabiliser. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous devez comprendre, et je dois vous expliquer, que la raison pour laquelle nous en sommes là, c'est que nous avons mis nos entreprises automobiles, notamment en Europe, sur un marché de 500 millions de consommateurs, avec un marché particulièrement ouvert, où l'idée directrice, c'était de faire en sorte qu'on puisse faire bénéficier aux consommateurs des prix les plus bas et des qualités les plus élevées, donc la recherche du rapport qualité-prix la plus performante avec un marché très ouvert à la concurrence, et que dans le même temps, nous avons été confrontés à une inflation réglementaire incroyable qui a mis sous pression nos marges. Eh bien, pour compenser la perte de marge, il faut faire de la productivité. Et si vous n'êtes pas capable de faire à minima 5% de productivité par an et que vous accumulez tous les ans 2 ou 3 points de retard, au bout de 10 ans, vous avez un écart de 20% et vous êtes obligé de restructurer les entreprises. Et c'est ce qui est arrivé à PSA dans les années 2010-2012. C'est pour ça qu'il a fallu restructurer. C'est ce qui est arrivé à Opel Vauxhall de la même manière, après avoir fait 20 ans de pertes. Et il a fallu rattraper ça en l'espace de 2 ans.
L'objectif d'une fusion, c'est de, pour créer de la valeur, c'est de dégager des synergies. Est-ce qu'on peut faire des synergies sans fermer des sites de production? Notamment, on dit qu'un certain nombre des usines du groupe Fiat tournent moins que les usines Peugeot. Donc, est-ce que les salariés peuvent pas dire, ils vont se marier, on va fermer des usines?
On peut, dans toutes circonstances, dans un monde où on cherche des certitudes, évidemment, se faire peur. On peut. Mais on peut aussi se dire que le fait de faire partie d'un groupe plus large, dans lequel vous avez des meilleures pratiques qui sont accessibles, transparentes, vous permet de progresser plus vite et de protéger l'ensemble de votre entreprise vis-à-vis de la concurrence des autres constructeurs. Et donc, l'accès à une panoplie de bonnes pratiques et de performances de référence au sein de ce groupe élargi permettra à ceux qui sont en difficulté de progresser.
Mais vous ne prenez pas d'emploi sur l'engagement en France à ce stade?
Pardon?
Vous ne prenez pas d'engagement sur l'emploi en France à ce stade?
On s'est engagé à ne pas fermer de site comme conséquence de cette fusion.
Est-ce que, Carlos Tavares, concernant le site de Roubaix d'une entreprise de téléconseil qui s'appelle Conduant, elle emploie plus de 310 salariés pour sous-traiter service client de PSA. Elle va, selon les syndicats, s'apprête à fermer parce que vous allez déplacer votre plateforme téléphonique au Maroc. Est-ce le cas?
D'abord, je vais vous dire que cette décision qui a été prise à la suite d'un appel d'offres est la conséquence de prestations qualité de service que nous jugeons insuffisantes pour nos clients. Mmh. Donc il faut partir de la cause racine. La cause racine, c'est effectivement le fait que cette entreprise, malheureusement, n'a pas apporté un niveau de réponse satisfaisant au niveau de qualité de service que nous voulons offrir à nos clients. C'est de là que ça part. Et donc ça a déclenché une consultation élargie que cette entreprise-là a perdue. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'elle a perdu aussi un contrat avec Apple, probablement pour des raisons similaires.
On peut pas trouver des entreprises qui feraient le service équivalent, on ne parle pas de celle-là, en France?
Bien sûr qu'il y en a, et d'ailleurs, ce que vous avez dit n'est que très partiellement vrai, puisque les 2/3 de cette prestation-là resteront en France, seul 1/3 est effectivement délocalisé au Maroc. Mais ce que vous devez comprendre, me semble-t-il, c'est que ce que nous faisons ici, c'est pour le bénéfice du client. Nous voulons, de manière déterminée, améliorer notre qualité de service à nos clients.
C'est l'heure de questions express.
Le grand jury, questions express.
Pour ou contre, Carlos Tavares, les transports en commun gratuits?
Contre.
Pour ou contre la taxation des contrats courts type CDD?
Contre.
Pour ou contre les quotas d'immigrés économiques?
Contre.
Pour ou contre la suppression de l'ENA?
Pour.
Pour ou contre la discrimination positive dans les grandes écoles?
Contre.
Pour ou contre le CV anonyme?
Contre.
Pour ou contre le contrôle continu à la place du bac?
Pour.
Est-ce qu'il y a un item sur lequel vous souhaitez revenir en particulier pour vous expliquer davantage, peut-être sur les quotas d'immigrés économiques?
Vous savez, je crois en être humain. Je pense que ce qu'il faut dans une entreprise automobile, c'est d'abord emmener le maximum de vos collaborateurs avec vous. Et donc, toute forme de distorsion, quelle qu'elle soit, par rapport à la capacité que nous devons avoir à connecter avec l'humain et à amener avec nous nos collaborateurs sur des idées qu'ils peuvent comprendre et auxquelles ils peuvent adhérer, constitue une distorsion du management. Moi, je suis pour le management, je suis pour le management des humains. Je suis pour la capacité à séduire des gens sur un projet d'entreprise, un projet de société qui permette à chacun de rêver d'un monde meilleur. Et pour cela, je considère que toute forme de distorsion constitue une entrave à la capacité d'expression de ce leadership.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Carlos Tavares. Alors il y a eu une entreprise espagnole qui va faire pointer les salariés dès qu'ils prennent une pause café ou une pause cigarette et ces pauses seront déduites de leur temps de travail et donc de leur salaire. Ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Et est-ce que vous avez déjà mis un système en place comme ça, équivalent à peu près dans votre groupe ?
Non, je ne crois pas qu'on ait mis ça en place et je n'en vois pas l'utilité. Je n'en vois pas l'utilité parce que là encore, notre ligne managériale fait correctement son travail et je dois moi leur donner l'exemple de ce qui doit être un management exemplaire, eh bien ce n'est pas nécessaire. Il suffit d'expliquer à nos collaborateurs que nous sommes tous intéressés à une création de valeur supérieure, au fait de créer des clients heureux qui nous permettent, à la fin de l'année, de redistribuer une partie de la richesse que nous
donc
avons créée ensemble.
Pour vous, ce fonctionnement n'a pas lieu d'être.
Je trouve qu'il n'est pas le plus efficace, en tout cas.
Autre question.
Autre question, oui. Des auditeurs nous ont interpellés sur le choix que vous avez fait de ne pas soutenir le FC Sochaux, le club de foot, qui vous avait contacté dans une lettre pour que vous les aidiez, voilà, parce qu'ils avaient des problèmes financiers. À l'époque, vous avez donc décliné. Il y a même un représentant de votre entreprise qui a déclaré que le football est un sport avec des valeurs populaires qui ne vont pas avec celles de PSA qui veut monter en gamme. Je cite ses propos. Est-ce que pour vous, le football, ça ne fait tout simplement pas partie de votre ADN et celui de votre groupe ?
Nous respectons totalement les passionnés de football. Et je sais que j'ai parmi mes collaborateurs de nombreux passionnés de football. Mais je suis obligé de confesser que je suis un très mauvais gestionnaire de club de football. Et que je m'estime totalement incompétent pour gérer un club de football. Raison
donc
pour laquelle
vous ne reviendrez pas là-dessus.
La meilleure manière de protéger le club de football que vous avez cité, c'est justement que je ne m'en occupe pas parce que je suis absolument médiocre.
Vous avez surtout votre argent, ouais. Si vous voulez.
Une toute dernière question.
Oui, on a remarqué que vous n'aviez pas de compte Twitter. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour vous différencier justement des autres grands patrons de groupe ou d'où vient ce choix ?
Parce que ça me donne le plaisir de discuter avec vous aujourd'hui sur un temps d'expression qui est bien supérieur à celui que m'offre le compte Twitter. Et pour l'instant, je préfère parler avec des phrases parfois trop longues à mes collaborateurs plutôt que de m'exprimer avec des
phrases. Et vous trouvez
que
nos politiques utilisent trop Twitter, justement, aujourd'hui, le président américain notamment ?
Ça nous fait revenir à notre sujet de discussion préféré, qui est la superficialité de la pensée unique. Et nous devons nous méfier de la superficialité de la pensée unique. Nous devons faire en sorte de promouvoir une profondeur d'analyse et de réflexion plus forte pour que nos démocraties se portent mieux dans l'avenir.
Nous espérons que nous y avons contribué avec cette émission. Merci Carlos Tavares, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.